Good Morning Business, face à Le Chypre.
Face à Le Chypre, c'est Jean-Marc Daniel pour parler de la mère de toutes les disciplines, la démographie et ses chiffres donnés par le ministère de l'Éducation sur les prévisions avec un effondrement du nombre d'écoliers, 1,7 million d'élèves prévus en moins d'ici 2035. Est-ce qu'il faut fermer des classes ?
Ah bah c'est certainement pas la priorité. Je pense que s'il y a bien un domaine sur lequel on peut pas raisonner de façon comptable, c'est quand même l'éducation nationale. C'est quand même le plus gros échec du service public à la française des 50 dernières années. Si vous regardez l'explosion des coûts, on dépense à peu près 10 milliards de plus que les Allemands pour un nombre d'élèves à peu près identique. Si on regarde l'effondrement de la qualité de cette éducation, je vous refais pas le classement PISA, les chiffres les plus dingues, c'est quand même ceux qui nous disent que par rapport à la génération 1987, il y a que 1% des élèves d'aujourd'hui qui feraient partie des 10% les meilleurs de l'époque. Et si vous prenez les 10% les plus nuls de 1987, ça correspond presque à 60% des élèves d'aujourd'hui. Vous voyez, donc
donc c'est notre chance là.
Donc voilà, absolument. Donc ça c'est le constat. Rappelons que l'éducation, c'est le plus gros moteur de la productivité et donc de la prospérité à long terme, et que s'il ne devait rester qu'un seul euro d'argent public, c'est dans l'éducation qu'il faudrait le dépenser. Donc profitons, comme on l'a fait chaque fois par le passé, des grandes transitions démographiques pour renouveler complètement notre offre scolaire. Si vous prenez les grandes expansions scolaires, la Troisième République, les Trente Glorieuses, tout ça, ça a accompagné des transitions démographiques. Donc, ne prenons pas comme priorité de fermer des classes, de virer des profs. On peut alléger la pression sur les coûts un peu, mais surtout, il faut songer à l'amélioration de l'offre, et donc il faudra qu'il y ait peut-être des fermetures de classes, mais dans une proportion bien moindre que ce que nous dit l'évolution du nombre.
Mais est-ce que la qualité de l'éducation est due au nombre de gens dans les classes
et... Ben non, il y a pas de grandes études. Il y a des études qui vous montrent que dans beaucoup de pays émergents, vous avez 30-35 élèves par classe et que ça se passe très bien. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite à l'éducation, en matière d'éducation, le nombre d'élèves par classe.
Jean-Marc.
Non, je pense qu'il faut avoir le sens des réalités. Le pays est en train de vieillir, donc le troisième âge ou quatrième âge va coûter de plus en plus cher, et donc un endroit où on peut faire des économies, c'est de constater effectivement qu'il y a de moins en moins d'enfants. Avec le discours que vient de nous tenir Emmanuel, on va finir à l'éducation nationale comme ministère de l'agriculture, il y aura plus de fonctionnaires à l'agriculture que d'agriculteurs, il y aura plus de professeurs que d'étudiants et d'élèves dans le système scolaire. Donc effectivement, vous avez une baisse spectaculaire du nombre d'élèves. Le fait que ce soit le nombre d'élèves qui détermine le niveau est plutôt infirmé par l'histoire. Oui. Il a parlé des Trente Glorieuses. En tant qu'élève pendant les Trente Glorieuses et fils et petits-fils d'instituteurs, je peux vous dire que les classes étaient à 40 et qu'on enseignait quelque chose.
Absolument.
Et que maintenant...
Vous allez me parler d'autorité,
Il y a le contenu et surtout il y a la motivation qu'on donne aux enseignants. Et donc là aussi, il y a un deuxième problème qui est le vrai problème, c'est le fait que l'année dernière, au concours pour les professeurs des écoles, ce qu'on appelait de mon temps à l'époque
y a plus personne.
Des instituteurs,
mais
il y avait 8100 places et il y a eu 7100 recrutements. Et donc il faut...
Donc on prend tout le monde en gros.
On prend tout le monde. Donc il faut effectivement améliorer la condition
des profs,
des professeurs que l'on recrute, mais il faut en recruter beaucoup moins, et il faut être beaucoup plus attentif à la qualité de l'enseignement qu'à sa quantité, et il faut se dire que effectivement à la fin des fins, ça doit être un endroit où on fait des économies dans une situation où les finances publiques qui sont tendues.
Oui, mais c'est là où on n'est pas d'accord avec Jean-Marc, c'est que l'équation comptable, c'est que le dernier terme, ça n'est que la dernière des priorités. C'est effectivement ce qui résultera sans doute de la démographie, mais la priorité, Jean-Marc l'a dit, comment, si votre seule obsession c'est de réduire le nombre de classes sans améliorer et de dépenser moins sans améliorer la situation des enseignants, comment vous voulez attirer davantage vers le métier de l'enseignement? Je veux dire, il y aura des meilleurs profs, leur expérience, leur métier sera revalorisé. Donc là, vous allez vraiment gagner en qualité. Je crois que le vrai défi qui se pose devant nous, il est simple. Soit on va vers la montée en gamme de notre système éducatif, soit on va vers l'abaissement de son coût, mais je pense qu'il faut pas se tromper. À long terme, c'est un très mauvais calcul.
Mais comment...
C'est le moment ou jamais, mais on peut investir.
Comment on fait pour améliorer, par exemple, le salaire des profs si on ferme pas des classes?
Bien évidemment, il s'agit pas de dire qu'il faut pas...
Pas moins nombreux, mieux payés?
C'est moins nombreux, mais pas proportionnellement à la démographie, c'est ça que je veux vous dire. La priorité, c'est pas d'aligner le nombre de classes sur la trajectoire de la démographie à la centaine.
Le ministre dit si on fait ça, on doit virer 100 000 profs par rapport aux 800 000.
Mais il y a des tas de profs.
Il dit ça n'a aucun sens.
Il y a des tas de profs qui vont partir à la retraite. Gardons-en pour effectivement aller vers cette amélioration de la qualité. Donc encore une fois, moi je pense qu'on va pouvoir dépenser moins. C'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout que la priorité absolue, ça doit être d'enseigner mieux et de former beaucoup mieux dans un pays qui est en danger aujourd'hui, globalement, à cause de la dégradation de son éducation nationale. Donc on verra si on ferme des classes, mais c'est pas la priorité.
Trois remarques très rapides. La première, c'est que la sollicitation du monde enseignant est beaucoup moindre qu'elle n'était il y a une cinquantaine d'années. Je rappelle que la semaine scolaire, telle qu'on parle de Jules Ferry, c'était 5 jours par semaine. C'est-à-dire, on travaillait lundi, mardi, mercredi, on travaillait pas le jeudi, d'où la semaine des 4 jeudis qui était le symbole d'une certaine forme d'oisiveté, et puis on travaillait le vendredi et le samedi, y compris le samedi après-midi. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, le ministère de l'Éducation s'est aperçu que parler de façon incantatoire de formation, 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 ça n'avait pas de sens si on ne prenait pas des mesures concrètes. Et il a revu les exigences en termes d'exigences universitaires vis-à-vis des enseignants pour avoir des exigences davantage pédagogiques. Et le troisième élément dans tout ça, c'est que je crois qu'effectivement, il faut que, pour motiver l'ensemble du monde enseignant, il faut avoir l'idée qu'il y ait une sanction au fonctionnement de l'enseignement. Ouais. Une sanction du côté des élèves. Si tout le monde a le baccalauréat, plus personne n'a le baccalauréat. Et si tout le monde a le baccalauréat, plus personne n'a envie d'apprendre. Si apprendre est vécu comme étant quelque chose qui est totalement inutile, puisque de toute façon, il n'y aura pas de sanction à l'absence de maîtrise des savoirs et des connaissances, à ce moment-là, effectivement, on a un système qui va se dégrader.
Il faut arrêter avec l'égalité par le nivellement vers le bas.
Exactement, exactement. Il voilà. Faut travailler et arrêter avec l'égalitarisme niveleur.
Dernier mot, dernier.
Non, mais c'est aussi un moyen de réduire finalement les inégalités sociales et de refaire un peu, que l'école corrige un peu ces inégalités sociales, puisque rappelons que la France est le pays dans lequel l'école corrige le moins ces inégalités sociales.